d'Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on se retrouve en direct avec Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Louis Haussalter, journaliste à Marianne.
Bonsoir
Louis. Et Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
vous étiez suspendu comme ça.
J'avais oublié. Bon,
mon cher Louis, nous avons eu la chance d'avoir les deux candidats des Républicains finalistes, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, sur le plateau de Punchline il y a quelques instants. Ils ont évidemment insisté sur les ponts, les passerelles qui pourront les rassembler après le second tour. Chacun s'est d'ailleurs engagé à soutenir l'autre ici même sur ce plateau,
même,
les yeux dans les yeux, donc ils ne pourront pas revenir sur cet engagement. Mais il y a quand même quelques différences et on va voir que chacun a souligné les différences qui caractérisent le programme de l'autre. Écoutez d'abord Valérie Pécresse sur les différences avec Éric Ciotti.
Il n'y a aucune différence irréconciliable, simplement mon programme est un programme qui est crédible. Il est puissant et il est crédible. Je donne un exemple. Éric Ciotti veut créer un Guantanamo à la française pour enfermer sans jugement les personnes radicalisées. Moi, je partage avec lui l'idée que nous ne sommes pas assez armés contre l'islamisme, mais j'invente un autre dispositif qui s'appelle le crime d'intelligence avec l'ennemi, que je mets dans le code pénal. Et comme ça, on peut les emmener devant le juge et les faire condamner avant qu'ils commettent un attentat. Donc vous voyez, une vraie prise de position commune contre la radicalisation, mais deux solutions. Une, sans juge, contre l'état de droit, et une autre, crédible. On les juge, et on peut les enfermer, les mettre hors d'état de nuire.
Voilà, on entendra dans un instant Éric Ciotti sur les différences avec Valérie Pécresse. Louis de Raguenel, ils ont des vraies différences. C'est vraiment compliqué de rassembler les deux ou pas tant
non,
que ça.
Là où Valérie Pécresse a raison, c'est que ce ne sont absolument pas deux droites irréconciliables. D'ailleurs, ils ont fait un bout de chemin politique ensemble. Ils étaient tous les deux dans l'équipe de François Fillon à un moment donné, lors de la dernière campagne présidentielle. Et puis on voit bien sur cet exemple précis, en fait, la différence, elle se joue sur les mots. Éric Zemmour, il a des mots qui parlent à la droite, la droite conservatrice, donc avec un symbole, un Guantanamo à la française. Et Valérie Pécresse, en fait, elle explique différemment, mais avec ces mots, exactement la même conséquence, la même finalité. C'est-à-dire, en fait, elle veut créer des centres de rétention administratifs pour mettre en détention des gens de manière préventive. Donc, globalement, en fait, il y a des mots différents,
la
finalité est exactement la même.
Bruno Jeudy, pas tant de différence que ça entre les deux candidats?
Oui, il n'y a pas tant de différence sur le régalien. Il faut savoir que d'abord, ce sont deux personnalités qui ont travaillé ensemble. Alors, c'était en 2012, c'était la campagne de François Fillon pour conquérir l'UMP. À l'époque, Éric Ciotti était le directeur de campagne, Valérie Pécresse, la porte-parole. Et ils se sont rappelés d'ailleurs tout à l'heure ces souvenirs. Je dis ça pourquoi ? Parce que au fond, Éric Ciotti, par exemple, est assez proche de Patrick Stefanini, qui est le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Et le projet de loi constitutionnelle qu'a préparé Patrick Stefanini pour Valérie Pécresse, grosso modo, quand vous discutez avec Éric Ciotti, il le valide dans les grandes lignes. Donc, sur les questions régaliennes, ça peut surprendre, mais ils ne sont pas si loin que ça. Alors après, ils n'emploient pas les mêmes mots. Il y a la martialité d'Éric Ciotti, il y a son style à lui, plus niçois sur ces questions. Et puis, il y a Valérie Pécresse qui, même si elle s'est beaucoup durcie sur ces questions, elle a beaucoup travaillé ces questions. Elle n'est pas spécialiste comme Éric Ciotti. Au fond, ils ne sont pas très éloignés. Je suis d'accord avec le côté, il n'y a pas... C'est pas irréconciliable sur cette question, pas du tout même.
Louis Haussalter, ce ne sont pas deux pôles très opposés de la droite que l'on a là,
non.
Quand même.
Non. Parce que Éric Ciotti explique, et vous a expliqué, Laurence, je ne suis pas un centriste. C'est son argument sous-entendu, Pécresse l'est un peu plus. Mais moi, j'ai relu cet après-midi le programme de Valérie Pécresse. Comme disait Bruno, c'est pas exactement un programme de centriste. Mais Valérie Pécresse, elle a cette image, je sais pas si c'est parce que c'est une femme, je sais pas exactement pour quelle raison, elle a cette image de centre-droit. C'est vrai que dans ses déclarations...
Parce qu'elle est chiracienne aussi un peu.
Elle est chiracienne dans ses déclarations.
C'est le côté chiracien qui fait qu'elle serait
moins... Elle passe pas pour une extrémiste, elle a jamais fait des déclarations zémouristes et tout ça. Mais son équipe avait bien identifié qu'il fallait qu'elle durcisse ses positions pour coller non seulement aux adhérents LR qui allaient voter, mais aussi à la droite en général, aux sympathisants de droite en général, qui eux aussi se sont durcis, parce que la France s'est droitisée, parce qu'on a assisté à tout ce qu'on a assisté depuis 5 ans.
Elle n'a pas sous-estimé la droitisation.
Elle a durci ses positions, et sous l'influence de son directeur de campagne, Patrick Stefanini, elle a truffé son programme de mesures régaliennes qu'Éric Ciotti, même s'il voulait aller un peu plus loin sur tel ou tel curseur, ne va absolument pas démentir. Donc l'argument de Ciotti qui consiste à sous-entendre que Pécresse est centriste ne tient pas au vu de son programme en tout cas.
Louis de Ragnel.
Il y a quand même une différence d'approche, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du même endroit. Valérie Pécresse, elle est venue au sujet régalien parce que précisément la droite se droitisait, il y avait une attente beaucoup plus forte de la part des électeurs et des Français de manière générale, là où Éric Ciotti est extrêmement constant, ça fait 15 ans maintenant qu'il défend exactement les mêmes idées, il n'a jamais bougé et ce sont les sujets qui l'intéressent depuis toujours. Donc ça a été d'ailleurs le monsieur sécurité, on l'appelait comme ça, des Républicains, il a participé à construire tous les programmes en 2012, en 2017, et donc si vous voulez, pour lui, c'est un peu le pur et dur, quoi. Et donc il observe juste une trajectoire, une mue de Valérie Pécresse qui est venue sur ces sujets, voilà, par nécessité, je pense, et on le voit, elle est convaincue, elle est sincère quand elle en parle, et puis quand on voit ce qu'elle écrit, alors peut-être sous la plume de Patrick Stefanini, mais c'est quand même elle qui l'écrit, elle assume, je me souviens même dans Valeurs Actuelles, elle déclamait tout son programme sur l'immigration, effectivement c'était un programme honnêtement extrêmement carré et très ferme, c'était pas de l'eau tiède.
Bruno Jeudy, elle a pas tant donc évolué dans ses positions que ça, Valérie Pécresse. Elle revendique le fait d'avoir toujours parlé des questions de sécurité, toujours parlé des questions d'immigration. C'est ce qu'elle me disait il y a quelques instants.
Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que beaucoup d'observateurs disent qu'ils se sont durcis, tout ce qu'ils en sont, sauf Éric Ciotti, évidemment. Je crois que ça tient au fait que, depuis un certain temps, on n'écoute plus tellement les Républicains. Et ceux qui n'ont pas entendu Valérie Pécresse pendant la campagne des régionales, ils ont cru qu'elle s'était durcie. Mais ils n'ont pas écouté ce qu'elle a raconté pendant la campagne des régionales, où elle était la cible de toute la gauche parce qu'elle était trop dure, parce qu'elle avait des propositions jugées... Valérie Pécresse, c'est Stéphanie qui dit souvent, on la prend pour quelqu'un centriste, alors qu'elle est beaucoup plus à droite, et lui-même dit qu'il a retoqué des propositions qu'elle faisait dans la préparation. Donc non, simplement, je pense que c'est comme beaucoup des candidats LR. C'est pour ça que l'opération de ce congrès est réussie, puisque pendant le mois de novembre, ils ont pu prendre la lumière. Alors du coup, on les a plus entendus, et on a dit, bon sang, ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils se sont durcis ?
Ils sont très à droite, mais ces gens de droite, finalement.
Valérie Pécresse n'a pas sous-estimé la droitisation du pays. C'est sans doute une
elle
des raisons
senti.
De son succès, peut-être par rapport à Michel Barnier ou Xavier Bertrand, qui sont ce soir les grands battus quand même de ce congrès.
Plus Xavier Bertrand que Michel Barnier, à votre
avis ? Bien sûr, plus Xavier Bertrand, parce que d'abord, ça fait des années qu'il s'est préparé, il était en tête dans les sondages d'intention de vote, et il apparaissait comme le favori, au moins, pour cette campagne présidentielle. Côté droit, Michel Barnier était le favori des militants, parce que soutenu par Laurent Wauquiez. Ben, les deux favoris ont trébuché.
Dure soirée pour Xavier Bertrand, Louis Dragnel.
Ah bah c'est pas simple, d'autant plus que sa campagne a commencé en réalité il y a très longtemps. Elle a commencé même avant les élections régionales. Il faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron met 5 ou 6 ministres en face de lui dans la région pour essayer de le faire battre. Ensuite donc il déclare sa candidature, il y va tout seul. Finalement il revient dans le parti, il se soumet au vote du Congrès. Donc c'est quand même honnêtement un parcours assez difficile. Souvent vous savez nous on commente assez facilement les personnages politiques, les personnalités politiques, mais il faut quand même voir que derrière tout ça, il y a énormément de renoncements. C'est une vie qui est quand même... Alors, ils l'ont choisi,
dédié,
hein, vous pourrez me dire.
Mais
c'est une vie
ça.
Qui est difficile. Et donc, la défaite, je pense, est dure.
Ouais. On fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant à Louis Hausselter. On écoutera Éric Ciotti, lui, énumérer ses différences avec Valérie Pécresse.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Bruno Jeudy de Paris Match, Louis Hausselter de Marianne, Louis Dragnel de Europe 1. On va écouter Éric Ciotti. Il était notre invité il y a quelques instants avec Valérie Pécresse. Et lui aussi, il marque les petites différences qu'il a avec son adversaire.
Je crois que ce qui a été apprécié, ce sont les propositions. Et là, pour le coup, elles sont très différentes de celles que porte Valérie Pécresse. Sur le droit du sang, on n'est pas d'accord. Sur la fin automatique du regroupement familial, on n'est pas d'accord sur la baisse de l'impôt sur le revenu avec un taux maximal à 15%. Je ne souhaite plus qu'un Français paye plus de 15% d'impôt sur le revenu.
Louis Dragnel, il a surpris en allant sur l'économie, Éric Ciotti. Personne ne l'attendait là-dessus dans les débats.
Absolument.
Et puis finalement, il avait quelque chose d'assez cohérent. Hein.
Figurez-vous qu'en fait, il y avait un écueil dans lequel il n'est pas tombé et il aurait pu tomber. C'est montrer le monsieur sécurité, donc parler que de sécurité d'immigration. Et il a réussi à montrer qu'il était compétent aussi sur d'autres sujets. Et effectivement, il y a des vraies différences. Dans les différences qu'il pointe, pour le coup, là-dessus sont des différences vraiment fondamentales. Le droit du sang, droit du sol, c'est quand même une vraie rupture. Sur la question du regroupement familial, pareil. Et sur l'imposition, moi, il y a cette idée qu'il a ressorti de l'impôt sur la mort. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué.
C'est choc, l'impôt, oui.
Voilà, qui vient de Dick Cheney, c'était aux États-Unis. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui a dû marquer les esprits aussi.
Oui, Hausselter, de Marianne.
Éric Ciotti et Valérie Pécresse, je trouve que cette finale, en fait, elle marque quelque part la perpétuation de la victoire idéologique du fillonisme. Pourquoi je vous dis ça? Pas seulement parce que les deux étaient d'ailleurs proches de Fillon. Et Bruno l'a rappelé, au moment où Fillon tentait de conquérir l'UMP en 2012, ils avaient joué un rôle important dans sa campagne. Mais Ciotti, on l'a assez, en effet assez peu vu, mais il a recyclé tout un programme très libéral. C'est lui qui voulait supprimer le plus de fonctionnaires, hein, 250 000 dans son programme. Il a recyclé des mesures encore plus libérales, quelque part.
Et il veut atteindre les 500 000, hein. Il veut attendre les 500 000 avec les départs en retard.
Voilà, donc il fait du post-fillonisme quelque part. Et Valérie Pécresse, quand vous lisez son programme, quand vous voyez à la fois son parcours, elle qui a été ministre de François Fillon sous le quinquennat Sarkozy, et quand vous lisez son programme, vous voyez aussi que les marqueurs fillonistes sont bien là. Donc, quelque part, dans cette droite, certes, il y a eu plus de 4 millions de votants à la primaire d'il y a 5 ans. Là, on est sur moins de 150 000 votants. Donc, il y a ce rétrécissement de la façon de désigner le candidat. Mais sur les marqueurs idéologiques, finalement, Fillon avait raison en 2016. Et c'est pour ça qu'il avait conquis cette droite. Là, aussi bien chez Ciotti que chez Pécresse, on voit, je trouve, la perpétuation de ça.
Et là, ils ont décidé de ne pas se faire voler l'élection cette fois-ci. Il n'y a pas eu d'attaque ad nominem, les débats se sont bien déroulés. Ils ont tout pour pouvoir se réunir après la désignation de samedi, Bruno Gilles.
Moi, j'avais aucun doute là-dessus, quand bien même ça aurait été les autres participants, Barnier ou Xavier Bertrand, ça aurait été pareil. C'est encore plus facile parce que là, il y a Louis le rappelait, il y a la filiation filloniste qui les rapproche sur bien des points, même sur les questions de fiscalité. Moi, je pense qu'il y a quand même des différences notables entre Ciotti qui a un programme...
Ciotti, elle est très loin.
Très loin, et Valérie Pécresse, elle essaie de garder un programme qui soit applicable, parce qu'après, vous promettez des choses...
Pas d'impôt au-dessus de 15%.
Pas d'impôt au-dessus de 15%.
Ça me paraît assez... Enfin bref, ça c'est affaire de spécialistes. Donc non, il y a de ce point de vue-là, leur filiation filloniste, puis leur bonne entente fait que ça peut marcher. On n'est pas dans le contexte de 2016 où ils ne s'entendaient plus du tout. Mmh. Et la primaire avait achevé, et en plus François Fillon qui gagne, qui n'ouvre pas les bras après la primaire, ça avait été un peu le début des ennuis, même si c'est essentiellement les affaires qui emporteront, ruineront les chances du candidat Fillon. Non, là, on n'a pas du tout ça, parce qu'en plus, ils savent bien que samedi, une fois que le vainqueur est désigné, le plus dur commence, parce qu'aujourd'hui, aucun de ces candidats n'est en mesure de se qualifier pour le second tour, et même de très très loin. Donc, le plus dur commence quand même samedi à 14h30, une fois que Christian Jacob aura proclamé le résultat, parce que non seulement il faut rattraper Éric Zemmour, il faut rattraper Marine Le Pen, il faut essayer d'aller au second tour, et après, il faut s'attaquer à Emmanuel Macron. Alors, là, si on regarde simplement, moi je trouve que les ministres ont été surpris de voir que Valérie Pécresse est en situation peut-être de l'emporter, et on voit bien que la présence d'une femme peut rebattre.
Alors, l'atout femme. Parlons de l'atout femme.
Rebattre un peu les cartes.
Il va jouer, ça va jouer.
Oui, c'est un atout. C'est un atout, et c'est même symbolique d'une droite, fameux parti des Godillots.
Machiste.
Mais Laurent, c'est pas
une question. Ça a été longtemps machiste.
Bien sûr, mais dans l'histoire de la droite, l'histoire du RPR, l'histoire des gaullistes, où il n'y avait que des hommes à ces tribunes, franchement, si jamais ce parti désigne une femme, ce sera quand même.
Une petite révolution.
Ce sera quand même. Une belle révolution, je dirais.
Une belle. Une petite, vous avez raison.
Mais oui, ce sera symbolique. Après, j'ose espérer que les électeurs de droite votent, parce que s'ils ont qualifié Éric Ciotti et Valérie Pécresse, c'est pour le programme, les idées, ce qu'elle incarne. Si Valérie Pécresse était nulle, j'ose espérer que les électeurs de droite ne l'auraient pas placée.
Est-ce que il peut y avoir un effet femme qui va jouer.
Et surtout que face à Emmanuel Macron, ça peut être déstabilisant. Emmanuel Macron, il est plus facilement désarçonné face à une femme que face à...
Il n'a pas été désarçonné face à Marine Le Pen. Hein.
Ouais, mais là, c'est assez différent. Parce
faut dire que...
Il a rendu les choses assez faciles. Ce que je trouve, simplement pour aller poursuivre un peu ce que disait Bruno Jeudy à l'instant, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, pour le coup, à partir de ce week-end, il va y avoir une clarification. Il y aura un seul candidat de la droite. Globalement, c'est quasiment une prouesse. On sort de la... C'est plus la droite la plus bête du monde. Attendez, on a commenté la droite la plus bête du monde pendant des années et des années. Donc là, globalement, ils ont tous scellé une sorte d'accord pour dire, voilà, on va pas s'entretuer. Et en plus, il n'y a pas d'affaire judiciaire. Attendez, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dernières élections présidentielles, en tout cas pour le moment. Et du coup, moi, je pense que maintenant que les choses sont plus clarifiées, pour les Français... ça va être plus compréhensible. Enfin, il y aura quelqu'un qui sera désigné. Et je pense que mécaniquement, le candidat va monter un peu dans les
sondages. Il y aura une dynamique.
Même si ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance.
Louis Hausselter, il y aura une dynamique.
En fait, je ne sais pas. C'est une vraie question. Qu'il y ait une dynamique dès le début, sans doute. En tout cas, on en parle. Ça donne une exposition médiatique automatique au candidat. Mais quand même, on a un peu l'impression d'être être là dans une soirée électorale, alors que un peu plus de 100 000 personnes ont voté seulement.
113.
Et le nombre de voix pour Valérie Pécresse, qui est la favorite du second tour, c'est 28 000. C'est-à-dire qu'il y a 28 000 personnes qui ont voulu désigner candidate de la droite Valérie Pécresse. Et Ciotti, c'est quasiment le même score en nombre de voix, à quelques centaines près. Donc, il ne faudrait pas que la droite s'illusionne sur le fait qu'une formidable machine, une formidable dynamique...
Ah, ils sont dans la présidentielle déjà. Hein.
...s'est mise en marche parce que la légitimité qui est apportée, ce n'est pas des millions d'électeurs qui
avaient voté. Honnêtement, Louis, je crois que personne s'illusionne.
Vous ne jeudi. Vous ne jeudi.
Pour le coup, pour le coup...
Les ambiances de l'électorat comme ça, ça peut tomber.
Attendez, pas tous en même temps, Bruno.
Ils sont lucides, Louis. Ils savent bien que le plus dur va commencer et que, franchement, les candidats-là qui étaient là ce soir sur le plateau de Laurence, ils savent pertinemment où ils en sont dans les sondages quand ils sont sondés dans les intentions de vote. Non seulement ils ne sont pas au second tour, mais ils sont même loin pour l'instant de la qualification. Il y a Zemmour devant qui va faire un meeting avec du monde dimanche et même s'il connaît une période de difficulté, pour l'instant il fait beaucoup plus de monde, il y a plus de jeunes, il y a un enthousiasme. Il faut créer le pari de l'enthousiasme, il faut amener des jeunes, il faut mobiliser une droite qui globalement se dit bon, on va y aller, mais ça va être dur. Il y a du boulot.
On va écouter Éric Ciotti justement sur Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour s'est empressé de le féliciter sur Twitter en me disant le RPR n'est pas mort. On va écouter ce que répond Éric Ciotti à Éric Zemmour.
Moi, je ne varie pas. J'ai dit des choses sur Éric Zemmour. Je les maintiens.
Vous maintenez que s'il est face à Emmanuel Macron,
bien sûr,
vous voterez pour lui au second tour. Donc moi, vous ne voyez pas au second tour.
Moi, je me détourne de ces politiciens qui considèrent que leurs valeurs sont en fonction des circonstances. Moi, c'est l'inverse. J'ai des valeurs et elles ne changent pas.
Alors, Louis Dragnel, est-ce qu'il y a une passerelle évidente entre les deux, Éric ?
Ah bah, enfin, sur les thématiques, évidemment. Enfin, il y a une convergence programmatique qui transparaît, même jusqu'à l'emploi de certains mots. Je pense au grand remplacement. Je pense à plein de même des expressions. Hein. Tu touches à un policier, tu dors en prison. C'est la prison ou l'avion. Tout ça, ce sont des mots qui ont d'ailleurs marqué les esprits, qui sont à la fois employés par Éric Zemmour, Éric Ciotti, même parfois par Marine Le Pen. Donc sur les idées, oui, parce que Éric Ciotti veut parler à une partie de la droite, et manifestement elle est encore très importante au sein des Républicains, qui est un peu désespérée par la ligne centriste ou la dérive centriste des Républicains. Donc oui, il y a une vraie proximité. Après, je trouve
ça ne va pas jouer un peu le rôle de repoussoir, justement, pour ces électeurs LR qui se disent « Ah non,
manifestement,
pas aller jusqu'à Éric Zemmour
bah, ». Manifestement non, et je trouve que ce qui est intéressant dans le vote, le résultat Éric Ciotti, c'est qu'il y avait, il y avait plein de gens qui disaient sur les plateaux de télévision « C'est terminé, ces électeurs n'existent plus au sein des Républicains, ils sont tous passés chez Zemmour ». Et en fait, non. Puisque ils sont là, ils sont encore bien présents,
et ils ont voté, ils ont fait
tourner la machine à cartes, et ils ont voté.
Et c'est bien la difficulté d'Éric Zemmour qui, d'un côté, on voit, il ne parvient pas à capter l'électorat populaire qu'a gardé Marine Le Pen. Et on voit bien que l'électorat filloniste qui regarde un peu, qui a regardé beaucoup Zemmour à la télévision, qui a regardé Zemmour, qui a lu Zemmour, qui a regardé l'ascension de Zemmour pendant l'automne, l'hiver venu, commence à se dire peut-être qu'on va retourner au chaud chez les LR. Et ça, pour l'instant, c'est en ce moment le match qui se joue. Et le grand basculement, il pourrait être assez surprenant.
Alors, on va parler dans un instant de l'autre duel qui est à la droite de la droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Elle a parlé d'ailleurs des Républicains, on l'entendra évoquer le 4/4 breton. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Bruno Jeudy de Paris Match, Louis Haussalter de Marianne, Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1. On va écouter Marine Le Pen, parce qu'évidemment, elle s'est exprimée sur cette primaire LR. Écoutez, elle la compare au 4/4 breton.
J'ai pas de réaction particulière, c'est quand même un peu le 4/4 breton, quoi. Hein. C'est-à-dire que manifestement, les quatre candidats se partagent quasiment à égalité. Enfin, il y a quatre candidats qui se partagent quasiment à égalité. Enfin, sauf Monsieur Bertrand qui manifestement termine un peu plus loin en quatrième position, mais se partagent les suffrages. Ça prouve qu'il y a une forme quand même de division, si vous voulez. Je suis pas sûr que pour les Républicains ce soit franchement une très bonne nouvelle de voir que leurs adhérents sont aussi divisés et qu'un candidat ne sort pas très largement en tête d'une consultation telle que celle-là.
Et réponse de Valérie Pécresse à l'encontre de Marine Le Pen.
comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4 quarts et elle va en bouffer beaucoup. Je ne laisserai pas à Marine Le Pen le monopole, j'allais dire, de la défense des Français qui veulent de la dignité, qui veulent de la liberté, qui n'en peuvent plus de la bureaucratie, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui se sentent en insécurité chez eux. Parce que ces Français-là, je vais les défendre, mais moi avec des solutions.
Voilà, pour Valérie Pécresse, c'est l'IVA cash, là. Le 4 quarts breton, elle va le bouffer. Bruno Jeudy.
Bah oui, cette bonne guerre, hein. J'allais dire, Valérie Pécresse anticipe déjà la suite et elle s'attaque aux autres candidats parce qu'elle espère être en être. Donc elle rattrape pas Marine Le Pen et elle rattrape pas Éric Zemmour. Elle sait surtout que, elle, ses marges de progression sont de ce côté-là. Oui. Également du côté de d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron était déjà très présent aussi dans cette primaire. Plus peut-être d'ailleurs dans la bouche de Xavier Bertrand que dans celle de Valérie Pécresse.
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. La mauvaise, c'est que ça se passe bien pour la droite pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils se tapent pas entre eux et que on a vu dans ces débats, en fait, chacun des débatteurs pourrait être le ministre de celui qui sortira du processus. C'est pas irréconciliable. C'est pas Sarkozy, Fillon, Juppé avec les haines cuites et recuites. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Le Pen parce que la droite affichera sans doute un visage uni jusqu'à ce que d'éventuels déboires arrivent. Hein, c'est déjà arrivé. La bonne nouvelle, c'est que Pécresse n'est pas tellement une candidate, à mon avis pour l'instant en tout cas, qui puisse aller chercher très loin les électeurs de Marine Le Pen. D'abord parce que ce sont des classes populaires et que Pécresse n'a pas une image très bonne, enfin elle n'est pas particulièrement plébiscitée par les classes populaires, en tout cas à ce stade de sa campagne. Et puis c'est pas elle n'a pas le profil presque sociologique, j'allais dire, de quelqu'un qui va aller chercher l'électeur type qui vote pour Marine Le Pen. Donc je pense que Marine Le Pen gardera sans difficulté le socle de ceux qui ont fait du vote Le Pen un réflexe, qui à chaque élection soit s'abstiennent, soit vont voter Le Pen. Après, sa difficulté à Le Pen, c'est qu'effectivement, pour l'instant, la droite ne fait pas d'erreur. Ce processus s'est bien passé. Ils auront une candidate. Donc voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que Marine Le Pen s'intéresse aux Républicains. Là, jusqu'à présent, elle était très tracassée par Éric Zemmour. Et là, tout à coup, elle se dit
tiens,
ils reviennent.
Louis Dragnel.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'attaque qu'elle fait contre Valérie Pécresse. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours eu plusieurs sensibilités à droite. Mais la preuve de cette élection, c'est qu'il y a des gens qui ont plusieurs sensibilités, qui ont voté, en tout cas, pour quelqu'un qui représente un même parti. Donc c'est la preuve aussi que la droite peut montrer qu'elle est unie. Sinon, les électeurs se seraient partis. Hein. Honnêtement, il y a 6 mois, c'était quasiment un acte de courage de prendre sa carte aux Républicains. De fait, non mais...
Alors, c'est vrai.
Objectivement, il n'y avait pas beaucoup de raisons d'espérer. Et là, de ce point de vue-là, les Républicains, c'est un pari qui est très réussi. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure pour Marine Le Pen. Soit Éric Ciotti est désigné le candidat LR. Et là, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour elle. Parce que, globalement, je pense qu'il est plus attirant, entre guillemets, parce que moins excessif, avec une image portée par le parti... plus mesuré, tout en disant à peu près les mêmes choses, et avec Éric Ciotti qui parle pour le coup beaucoup aux catégories populaires. Et si c'est Valérie Pécresse, je pense que ses marges de progression, je suis assez d'accord avec vous, ses marges de progression chez Éric Zemmour et Marine Le Pen sont assez minimes parce qu'elles représentent souvent ce que ces gens-là, ces électeurs-là, ne veulent plus voir. En revanche, je pense qu'elle va essayer d'aller gratter plutôt du côté des électeurs, des anciens électeurs d'Emmanuel Macron, ou alors les électeurs de droite qui savent centristes, qui savent pas très bien où ils sont. Et globalement, ça représente quand même, il y a énormément d'électeurs. Hein, encore, on a souvent on se dit que c'est une tranche de camembert toute fine, mais en fait, pas du tout. Hein,
quelques millions d'électeurs.
Ah bah, il y en a beaucoup. Hein.
Enfin, si on se base sur la primaire de 2016.
Ce sont les électeurs sur lesquels Emmanuel Macron compte. Donc en fait, qui est désigné, il y aura une bataille, mais à main nue, pour récupérer ses électeurs. Donc là-dessus, ça va être très intéressant à regarder comme observateur politique.
Il y avait deux stratégies, vraiment, au moins pour la présidentielle. Il y avait celle d'Xavier Bertrand, qui était d'aller reconquérir plutôt l'électorat populaire, classe moyenne, province, un peu celle qui a voté pour lui dans les Hauts-de-France. Qui était sa stratégie et qui lui calculait, disait, les bourgeois qui sont en gros partis chez Macron, on les fera pas revenir, et ça c'est mort. Et Valérie Pécresse, elle pense, peut-être sur la base de ce qu'elle a fait en Ile-de-France, son créneau, elle, c'est elle, je peux récupérer les déçus du macronisme, c'est son pari. Donc cette bourgeoisie qui trouve que le compte n'y est pas sur le régalien, que on peut aller plus
ce
loin.
Qu'elle a fait au régional. Ce sont des macronistes.
Donc c'est sa stratégie à elle. Donc, et là, manifestement, celle de Xavier Bertrand, on la verra pas se déployer.
Et les électeurs de Bertrand, ils vont se reporter sur Pécresse sans coup férir ?
Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il va y avoir un peu de démobilisation chez Xavier Bertrand parce que lui, il avait ses réseaux à lui qui sont très différents de ceux de Valérie Pécresse. Donc il y aura de la démobilisation. La question se pose plus pour Michel Barnier, parce que Michel Barnier, d'abord, c'est quand même la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a beaucoup d'adhérents, c'est la troisième région un peu en poids électoral dans ce congrès. Et c'est vrai que là, Laurent Wauquiez, l'électorat de Laurent Wauquiez, c'est quand même aussi un peu Ciotti, ça. C'est Ciotti, pas très très loin. Hein. Je peux... sans difficulté révéler à l'antenne que Laurent Wauquiez a envoyé un message pour exprimer sa fierté, sa félicitation à
Éric Ciotti.
Si vous le révélez, là.
Et Nicolas Sarkozy a appelé Valérie Pécresse. Bien sûr. Donc voilà.
Et Nicolas Sarkozy, ça vient de tomber aussi à appeler Éric Ciotti, figurez-vous.
Éric Ciotti, voilà, évidemment.
On vient de l'apprendre.
Mais il a appelé aussi, il y a eu aussi un contact avec Valérie Pécresse.
Oui. Absolument, elle nous l'a dit il y a quelques instants.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir que font les électeurs de Michel Barnier. En fait, il y avait un électorat assez étonnant, Michel Barnier. Il y avait à la fois des gens qui étaient encore très attachés. Il y en a encore au sein des Républicains à l'Union européenne, la construction européenne, dont on a peu parlé, mais ils existent. Et puis, il y avait un électorat assez conservateur qui se disait, il a fait sa mue, il propose son référendum, il est dur sur l'immigration. Et puis, les gens se disaient, il a une gueule de président, il fait président, on l'a beaucoup dit. Donc, je pense qu'il n'y aura pas du tout un report mécanique de Michel Barnier vers Valérie Pécresse, d'autant plus que, lors de tous les débats, ceux qui se sont le plus écharpés, ce sont Michel Barnier et Valérie Pécresse.
Il y a des raisons d'en vouloir.
Et je peux vous dire que tous les militants de toutes les chapelles les Républicains, de tous les candidats, ont suivi avec beaucoup d'attention les débats, et donc les électeurs de Michel Barnier, il y en a beaucoup d'entre eux pour qui voter Pécresse, ça va être compliqué.
Pécresse a beaucoup gagné dans les débats, en réalité. Là où Michel Barnier apparaissait comme favori des militants, mais elle n'a pas fait de faute, et puis en fait, elle a misé la crédibilité, parce que je pense qu'elle s'est dit, après tout, tout le monde a à peu près le même programme, à quelques nuances près, on vient d'en parler. Elle a insisté sur le côté, moi je suis aussi une technicienne et pas qu'une politique, les dossiers je les connais, et donc les mesures dont on est tous en train de parler et sur lesquelles on est tous à peu près d'accord, je serai la meilleure pour les appliquer. Là où Xavier Bertrand se concentrait uniquement sur des attaques personnelles contre Emmanuel Macron, et là où Michel Barnier a fait des prestations un peu poussives, là où il était au début du processus, plus le favori du canal militant, quelque part. Et là où Ciotti, et c'est là où son score n'est pas étonnant, a tenu la ligne adhérent. Et d'ailleurs, quand on parlait de Zemmour, à mon sens, l'erreur qu'il n'a pas faite, c'est de dire trop de mal d'Éric Zemmour. Là où ses concurrents ont beaucoup, quand ils étaient interrogés sur le sujet, ils ne le faisaient pas de gaieté de cœur, je pense, parce qu'ils savaient les risques qu'il y avait à prendre. Mais Ciotti a été cohérent dans le fait de tenir la ligne militante de la droite dure et du coup d'en tirer la conséquence de ne pas dire de mal
jusqu'à ce soir même Zemmour, continuer à dire qu'il voterait Zemmour.
Je trouve en tous les cas que ce congrès a montré une chose, et ça devient récurrent maintenant, c'est presque une règle, c'est-à-dire quand même celui qui prend la main, en l'occurrence ceux, c'est-à-dire Pécresse et Ciotti, qui prennent la main sur le premier débat, confirmé au deuxième débat, finissent par remporter. Ça avait été le cas en 2016 lorsque François Fillon est apparu rapidement comme celui qui faisait le trou dans les débats. C'est important finalement dans ces primaires, dans ces congrès, c'est important
le poids des débats télévisés est finalement très important. Américanisation de la vie politique.
Oui, parce qu'il donne une impression et ensuite la campagne s'installe avec cette première impression. Et si le deuxième débat est de la même nature, après il s'échappe.
Un petit pronostic chacun. Il nous reste 1 minute 20. Qui va gagner samedi? Louis, Bruno, jeudi.
Ce sera Valérie Pécresse, je pense.
Le score? Oui. 60-40.
63-37.
Alors, Louis Dragnel.
Moi, je m'étais tellement trompé, si vous voulez, pour la.
Que vous allez vous apprendre.
Les écolos, ça n'a rien à voir. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, je m'étais totalement trompé.
Donc,
je pense que ça peut être très serré parce qu'il y avait des choses qui paraissaient évidentes chez les écolos. Alors, c'est pas du tout la même composition politique, mais toutes les surprises sont possibles. Regardez,
Réponse de Normand, là, mon cher Louis, mais c'est pas grave. Allez.
Attendez, on aurait fait la même question hier soir sur la désignation des deux sortants de ce soir. Je pense que j'ai eu beaucoup de surprises.
Mais
j'ai dû juste dire qu'Éric Ciotti serait
dans le ticket.
Et moi, j'ai sur laquelle je me suis pas trompé.
Pécresse, 67, deux tiers des voix.
Bon, très bien, voilà. Voici vos pronostics. On les vérifiera dès lundi soir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline. Merci à toutes les équipes techniques qui ont réalisé cette belle émission où il y avait à la fois Valérie Pécresse et Éric Ciotti sur le plateau de Europe 1 et de CNews. Merci beaucoup, les garçons. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Vermeil Underground. Et aussi, il y aura les informations avec Alexandre Lemaire. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.